Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc on va commencer cette présentation de la bande dessinée « Moi fou ». J'ai mis le titre là, en espagnol, « Yo loco », mais la présentation va être en français et Keiko parlera en espagnol et Antonio le traduira. Donc c'est une présentation organisée en collaboration entre l'Institut Cervantes de Bordeaux et la librairie Mola. Donc je vais commencer par présenter Antonio Altarriba, qui est le scénariste de la bande dessinée. Antonio Altarriba a été professeur à l'Université du Pays Basque de littérature française, raison pour laquelle il parle si bien français, comme vous allez le voir. Et pour nous qui étudions la bande dessinée, c'est vraiment le livre qui est tiré de sa thèse, par exemple, est vraiment la Bible. Il a écrit des analyses au début du XXIe siècle qui n'ont pas été dépassées depuis. Mais il a été reconnu surtout comme scénariste à partir de la publication de L'art de voler qu'il a écrit avec Kim, le dessinateur Kim. Donc L'art de voler qui a gagné le prix national de la bande dessinée en Espagne en 2010 et où Antonio raconte la vie de son père. Et, au début du XXIe siècle, le père d'Antonio Altarriba se jette du quatrième étage de la résidence pour personnes âgées où il vivait, à 90 ans. Et évidemment, cela a créé un traumatisme chez Antonio, qui était très proche de son père, qui portait le même nom que son père, Antonio Altarriba. Et il s'est mis à réfléchir aux raisons, disons, de ce geste final désespéré. Il l'a interprété comme une libération de cette personne qui, tout au long de sa vie, avait voulu voler, avait voulu être libre, mais qui avait subi le poids de l'histoire, la guerre d'Espagne, l'exil dans les camps de concentration en France, la Seconde Guerre mondiale et ensuite l'exil intérieur lors de son retour en Espagne. Donc c'est un magnifique roman graphique. Il y a même un passage par Bordeaux. Et quelques années plus tard, après les questions que lui avait posées une lectrice de L'art de voler, et votre maman, Antonio Altarriba s'est dit qu'il avait peut-être un peu maltraité sa mère dans cette première BD, puisqu'elle avait un peu le mauvais rôle. C'était la femme au foyer, très catholique, qui semblait s'accommoder plus ou moins du régime franquiste, même si elle n'avait jamais été franquiste. Et finalement, il s'est dit « mais ma mère, c'était bien plus que ça ». Il a commencé à faire une recherche sur la vie de sa mère qu'il connaissait beaucoup moins que celle de son père, puisqu'elle ne lui avait, elle lui avait presque rien raconté. Donc ça a donné lieu à cette biographie, L'aile brisée. Keiko est aussi l'auteur, comme scénariste et dessinateur, de deux BD qui ont été traduites en français, les deux avec un ton noir, de roman noir, Plein les yeux, qui reprend une imagerie populaire des années 50, et La protectrice, qui serait une sorte de continuation, de suite plutôt, pardon, du Tour d'écrou d'Henry James, donc avec cette ambiance fantastique et fantomatique d'une certaine manière. Et c'est avec Moi assassin qu'Antonio Altarriba et Keiko commencent leur collaboration. Moi assassin qui a gagné le Grand Prix de la critique à CBD en 2015. Donc là, il s'agit d'un professeur de l'Université du Pays Basque qui, comme vous le voyez, ressemble étrangement à une des personnes présentes dans la salle, mais qui est enseignant, non pas de littérature française, mais d'art, et en particulier spécialiste d'art cruel. Il aime tellement l'art cruel qu'il se met à perpétrer des assassinats artistiques, si on veut. Donc c'est évidemment un polar. Mais il y a derrière tout un fond de critique sociale et politique du monde de l'université, du monde de l'art contemporain et aussi de l'ambiance à l'université au Pays Basque dans les années 80 et 90. Keiko et Altarriba ont aussi reçu une commande, après le succès de Moi assassin, du musée du Prado pour sa collection qui fait dialoguer bande dessinée et art classique, disons. Et donc, lors d'une exposition de José de Rivera, à cette occasion, ils ont publié El perdoni la furia, mais qui n'a pas été traduit en français pour l'instant, et qui également interroge le monde de l'art, mais aussi le monde de l'art contemporain, et fait réfléchir aussi sur cette tradition de la terreur, de la représentation, ou oui, de la pédagogie de la terreur à travers l'art en Occident. Et finalement, nous en venons donc à ce dernier album de ce qui va être une trilogie, hein, la trilogie du moi ou la trilogie narcissique, donc moi assassin, moi fou, et il y aura bientôt moi menteur.
Oui.
Et donc, là, comme vous l'avez vu, dans moi assassin, c'est donc une BD en noir et blanc avec des taches de rouge. Le rouge, il joue un rôle très symbolique dont on parlera. Et dans moi fou, il s'agit du jaune. Donc ce personnage, qui ne ressemble plus du tout à Antonio Altarriva, travaille, je ne vais pas dévoiler, je vais demander aux auteurs directement de le faire, mais se passe dans le milieu de l'industrie pharmaceutique. Alors voilà, la première question, est-ce que vous voulez bien nous dire quel est le sujet de Moi fou ?
Oui, bon, d'abord et en tout, merci de votre présence ici. Merci à la librairie Imola et à l'Institut Cervantes pour cette invitation. Ces jours qui sont des jours marqués par la BD, il y a le Festival d'Angoulême qui vient de commencer. Et bon, moi fou en fait, la trilogie dont Isabelle vient de vous parler, comme vous voyez déjà par les titres, c'est une trilogie qui fait un parcours par les côtés le plus beau du monde, hein, moi assassin, moi fou, moi menteur. Ce sont les meilleures qualités qui sont présentées dans chacun de ces bouquins. Dans le cas de moi fou, le point de départ, c'est de réfléchir un peu sur le rôle chaque fois plus important qui ont de nos jours les grandes corporations dans notre vie quotidienne. Beaucoup de nos activités quotidiennes sont marquées par les décisions qui sont prises dans des conseils d'administration, par des grandes directives au PDG des entreprises. Et nous voyons comment ces grandes corporations parfois mettent comme un premier objectif le bénéfice avant tout, et ils ne s'arrêtent pas très souvent s'ils doivent même le faire à travers de pratiques un peu critiquables, même illégales. Hein, nous avons vu de façon récente comment l'industrie automobilistique de l'automobile, par exemple, triche ou a triché des marques très importantes pour le contrôle de la pollution de voitures. Nous voyons comment les banques parfois se retrouvent en procès judiciaire parce que les pratiques de ces banques ne sont pas tout à fait légales. Nous avons connu comment Facebook vend nos données et notre privacité pour d'autres intérêts. Et évidemment, s'il y a un aspect qui est spécialement délicat et compromis pour nous, c'est notre propre santé. L'industrie pharmaceutique donc se charge donc de faire des recherches et de mettre sur le marché des produits qui, en principe, devraient contribuer à notre santé. Nous savons que le lobby pharmaceutique est très, très fort, très important, très puissant, très proche de certains milieux politiques. Et si à l'intérieur du monde de l'industrie pharmaceutique, nous nous approchons surtout de ce qui est devenu la partie la plus importante et qui donne le plus de bénéfices au monde de l'industrie pharmaceutique, la psychopharmacie, alors les soupçons, les questionnements augmentent. On pourrait dire dans ce cas que le livre explore cette dimension d'une grande corporation qui est affrontée entre la santé psychique des gens et le besoin d'augmenter les bénéfices. Et comment ils s'y prennent et comment ils s'y trichent pour que la santé des gens ne leur empêche pas de continuer à faire leur business. Donc c'est un peu le point de départ. En plus, ceci entre en connexion avec tout un débat qui a une longue traduction sur les débats sur la folie. C'est qui le fou? Où termine donc notre identité personnelle, notre identité, nos particularités des caractères, et où commence la pathologie, où commence la normalité? Vous savez que on a beaucoup longuement écrit, même parfois on tend à voir la folie proche du génie. Même donc c'est jusqu'à quel point donc la médecine, nous avons des preuves donc de comment la médecine a traité comme maladie des attitudes et des comportements qui ne peuvent pas être considérés spécialement pathologiques, mais ce sont des infiltrations idéologiques, des tendances idéologiques qui ont pathologisé, si vous me permettez le terme, certains comportements. N'oubliez pas, par exemple, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est un organisme d'une grande influence, a maintenu dans la liste de troubles mentaux l'homosexualité jusqu'à 1990, c'est-à-dire c'est tout récent. C'est déjà une preuve. On parle, par exemple, dans ce livre, d'une des maladies mentales qui a été connue et reconnue au 19e siècle déjà, dont le profil avait été créé par un médecin de l'Amérique du Nord, nord-américaine, en 1850. Il appelait drapétomanie à une maladie caractéristique de la race noire, d'après ce qu'il disait, et c'était cette manie incontrôlable qu'il savait de s'évader des plantations où il s'était esclave. Rendez-vous compte jusqu'à quel point je pourrais vous donner tout un tas d'exemples, donc des comportements qui ont été considérés comme maladifs, quand en fait ils ne font que répondre à certaines tendances, à certaines pulsions. Où en est-on en ce moment? Voilà donc la base, donc d'où nous avons tiré Keiko et moi, donc les fils pour créer, parce que c'est la caractéristique commune de cette trilogie, ce sont des thrillers très noirs, il y a toujours une intrigue d'assassinat, etc. Mais c'est à travers ces thrillers que nous y réfléchissons sur toute une série de problèmes sociaux d'une grande actualité. Naturellement, comme vous pouvez peut-être deviner, le troisième, celui qui va fermer la trilogie, Moi, ma terre, va se centrer essentiellement dans le monde de la politique, qui est évoquer le mensonge et penser à la gestion et au discours de certains politiques. C'est une association qui s'est, hélas, s'est fait de plus en plus naturellement, et les complicités que le monde de la politique maintient avec certains médias. Et comment s'organisent des faux discours qui conditionnent aussi notre comportement. Voilà donc pour répondre à ta question, Isabelle.
Alors, je vais poser maintenant une question à Keiko. Justement, cette folie, comment l'as-tu travaillée graphiquement? Il y a des passages très oniriques qu'il n'y avait pas, me semble-t-il, dans Yoas et Sino. La BD commence par un cauchemar et les cauchemars sont récurrents chez le personnage principal. Tu as compris la question?
Si. Allez.
J'ai compris un peu.
Quieres que qu'elle haga en español?
No. No, ha comprendido muy bien. Vale. Ya se puede decir
bonsoir
à tous. Désolé, je ne parle très bien français. Bueno, contestando a la pregunta, el trabajo en los tres libros pretendemos que tenga una unidad, ¿no? Desde el momento que Antonio, digamos, me eligió como dibujante era porque quería que todo toda la trilogía tuviera esta característica de ser negra, densa, tenebrosa.
Oui. Il dit que il y a une unité graphique dans toute cette trilogie. Et qui en fait, et c'est vrai, si je lui ai proposé de travailler dans ce projet, c'est dans la mesure où, comme vous pouvez déjà constater à travers les images que vous voyez, le domaine et le travail sur le noir, le blanc de Kekko est formidable. En Espagne, il est considéré comme le grand maître du noir et blanc. Alors, d'abord, il y a une unicité.
Mafu, yo sí pienso que destaca en una cosa y es que tiene un componente más terrorífico, ¿no? Por lo que ha dicho Isabel, yo diría así brevemente que se desarrolla en dos planos muy diferentes. Uno sería el de la mente del protagonista y ahí nos encontramos un mundo gráfico de pesadilla.
Uh-huh. Oui, alors il dit que dans Moifou, concrètement, l'histoire se développe dans deux mondes, dans des mondes qui vont ensemble et parallèles. C'est le monde intérieur et cauchemardesque du protagoniste qui se trouve obsédé et qui froisse ce que l'on pourrait considérer comme folie et le monde réel. Il y a ces deux mondes, le monde
bueno, onirique. Et le monde corporatif de l'empresa, parce que tenemos, por una parte, toda una historia que se desarrolla en los despachos de esta empresa que se dedica. Ah, y ahí vemos ese mundo está presidido pues por las formas geométricas y arquitectónicas, ¿no? Un mundo que pretende ser racional, pero en el que por lo menos yo, Antonio y yo pensamos utilizando un edificio existente en Vitoria, que es un edificio muy curioso, que es como una jaula, precisamente que ese mundo también corporativo reflejara un poco esas formas y esas formas de locura, ¿no? De inestabilidad y que todo fuera un poco, toda la historia fuera como muy asfixiante y cerrada.
Oui, il y a aussi donc dans le monde réel l'espace qui occupe le monde corporatif avec des lignes très très géométriques mais qui dont le siège de la grande corporation parce que c'est les trois histoires se passent dans la ville où j'habite, à Vitoria, répondent à un édifice qui existe réellement, un édifice très moderne, mais qui est en même temps très propre, très linéaire, mais très clos, fermé sur lui-même. Donc, ces différents mondes, très en contraste, le monde onirique et fantaisiste du protagoniste et ce monde réel avec ses animaux corporatifs qui constitue le registre graphique.
Y por último, y algo que es lo que está presente en los tres libros es, como ha dicho Antonio, la ciudad de Vitoria, ¿no? O sea, la ciudad de Vitoria es protagonista, es el hilo, ¿no? El cordón umbilical que une las tres historias. Y bueno, es una ciudad que si el que la conozca dirá que de dónde ha sacado este hombre esta Vitoria de pesadilla. Pero es la ciudad donde transcurren estas historias. y a la vez es la atmósfera, que, la atmósfera por donde deambulan los personajes, y al ser, claro, unas historias, digamos, duras y... Al ser civiles, pues hemos intentado plasmar una Vitoria pues muy, muy negra también, ¿no? con muchas sombras y algo que choca, ¿no? al visitante, ¿no? Que puede chocar al visitante que conozca esa ciudad de provincias tranquila y donde se vive muy bien.
Y insisto sobre le fait que, en fait, le fait que les trois histoires se passent à Vitoria, qui est une, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ville au Pays Basque, c'est la capitale administrative du Pays Basque, c'est pas loin d'ici, hein, au nord de l'Espagne, et c'est une ville de province de 150 000 habitants, en apparence très paisible, mais qui acquiert une dimension inquiétante à travers ces histoires et qui donne, entre autres éléments, une unité d'atmosphère à toute la trilogie. Et c'est cette ville qui est traitée aussi à travers un traitement, c'est-à-dire la noirceur de l'histoire déteint un peu sur la ville qui devient un espace inquiétant également.
Je voulais justement vous poser une question. Par rapport à ça, justement, on a parlé de la ville Vitoria, ben, on va commencer par ça. Je le dis en français, hein, mais entiendez, c'est... Voilà. Et en fait, il y a cette bonne restitution de l'architecture, des bâtiments officiels, le correo, la banque, etc. Et accompagner cette noirceur. Et également, on va dans le monastère d'Oteiza aussi, où il y a ce côté impressionnant. Et tous les deux, on a l'impression que par ce livre, vous laissez la réalité apparente présente, mais vous transgressez. Il y a une transgression, c'est-à-dire que vous passez de l'autre côté du miroir, hein, de l'autre lado del espejo. Hein. Et là, en fait, on parle effectivement de crimes, de manipulation, de tout ce qui est, toutes ces vicissitudes, mais qui sont à ce moment-là énoncées, alors que normalement, c'est dans la réalité apparente, elle glisse, quoi. Et de la même façon, Vitoria, telle que tu la dessines, telle que vous l'avez conçue tous les deux, est à la fois cette ville que l'on connaît, et aussi, avec ses ombres et inquiétantes et tout ça, celle du cauchemar que vit Angel Molinos. Voilà, donc...
Oui. Bon, d'abord, je vous présente François García, je crois qui est écrivain, qui est médecin également, et qui est aussi notre amphitryon. Grâce à ses démarches, nous sommes ici. Merci, François. Effectivement, on trouve à travers une certaine... tout dépend un peu du point de vue. Et à travers cette optique, à travers cette perspective des endroits qui sont pour moi surtout, pour Keko connaît Vitoria, Keko se déplace par Google Maps. ça a été drôle, même, je ne résiste pas à raconter cette anecdote parce qu'il n'est venu à Vitoria qu'une fois moins ça s'est terminé. C'est-à-dire, il est venu à une ville qu'il ne connaissait qu'à travers Google. C'était très drôle de voir comment, en même temps, il reconnaissait les lieux, il les identifiait immédiatement, mais il n'avait pas une idée d'ensemble de la ville. Ah, mais la gare est tout près de l'université. Alors, voir toutes ces surprises. Donc, pour moi, c'est mon espace quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi certains endroits, par exemple le monastère de Oteiza, de Aranzazu, qui est un endroit proche de Vitoria et dont l'architecture est déjà assez inquiétante et qui acquiert une dimension. C'est en plus le village d'où vient le protagoniste, qui, comme je vous dis, est en même temps du côté de la corporation, mais lui aussi soumis à certaines incertitudes et inquiétudes psychologiques par une relation familiale très, très compliquée. Donc, réellement, Keiko, je crois qu'il réussit à faire de Vitoria une espèce d'espace inquiétant. Donc, moi-même, maintenant, quand j'y passe par certains endroits qui avant étaient tout à fait paisibles, etc.
Claro, y él, no solo Vitoria, sino también a él, en un personaje también inquietante del paisaje vitoriano, porque fue, como fue el protagonista del Yo asesino, a la vez también se ha convertido en otra figura terrorífica.
C'est vrai, j'ai pris ce risque, le fait de prêter mon aspect physique au protagoniste de Moi assassin. C'est une idée de Keiko, il faut le dire. Hein. C'est lui qui est... Parce que moi, dans le scénario, je lui avais fait un portrait, une espèce de portrait robot, compte tenu du caractère et des activités, de mouvements que le protagoniste allait avoir. Mais après, on fait, dans la bande dessinée, il est très commun de faire ce que je nomme une espèce de casting graphique. Hein. Quand comme scénariste, tu présentes l'histoire au dessinateur, et tu fais comme une petite fiche de chaque personnage, des caractéristiques de ce personnage, du rôle qu'il va jouer, et ce que le dessinateur te rend, ce sont l'aspect physique. Bon, écoute, ce personnage, moi je le verrai comme ci, comme ça, etc. Donc, pour que l'aspect, l'anatomie du personnage soit vraisemblable, hein, avec le rôle qu'il va jouer. Alors il m'a envoyé des esquisses, le casting de secondaire, mais le protagoniste n'arrivait pas. Et finalement, quand il me l'a présenté, il m'a dit, mais écoute, prof de l'université, avec tel que tu me le décris, un peu imposant de figure, parce que c'est quelqu'un qui tue avec ses mains, etc. Donc, c'est toi qui apparaît toujours. Et c'est vrai que j'ai remarqué que depuis, j'ai plusieurs voisins chez moi qui ne montent plus à l'ascenseur avec moi. Et certains regards dans la ville qui disent « Ah, voilà l'assassin !» Non, parce que le livre a été évidemment à Vitoria, comme la ville apparaît dessinée. C'est un livre qui est assez connu. Donc, j'ai un statut incertain en ce moment à Vitoria.
Yo que vivo en una ciudad bastante grande, ¿no? Como es Madrid, ¿no? Claro, lo que te comentaba Antonio, lo que te choca y a mí me encanta es que Vitoria es como si fuera el decorado de un plato, ¿no? Está todo, es verdad, ¿no? Todo está muy junto y entonces queda un escenario muy compacto, ¿no? En todo momento yo sé por donde ya se van moviendo los personajes, a dónde se dirigen, cuando van por una calle u otra. Y me gusta mucho porque, al contrario que una ciudad grande, ¿no? Los lugares se dispersan. Vitoria tiene un terror compacto, ¿no? Así para... Está todo ahí. Es de, tiene, y consigue que haya una densidad, ¿no? Como si fuera un agujero negro, ¿no? Así de mucha gravedad, ¿no? Concentrada en un espacio pequeño, ¿no?
Je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, il dit que lui, il vient d'une grande ville, hein, de Madrid, hein, et Vitoria, c'est une petite ville. Il dit que c'est comme une espèce de plateau terrorifique, hein, où les différents décors sont en réalité très près les uns des autres. Hein, et réellement, il s'attire donc cette dimension inquiétante, comme on voit en fait comme le regard, le traitement et aussi l'intrigue qui traverse toutes ces rues, toutes ces maisons, etc., attire ou se contamine de cette même atmosphère.
En réalité, Vitoria est une des villes les plus vertes d'Europe, oui. Selon un prix qui lui a été donné récemment. Alors, j'avais une question pour vous, François Garcia. Donc, vous avez été particulièrement intéressé par cette bande dessinée en tant que médecin. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, dans notre société, on pathologise de plus en plus les différences ? Enfin, l'industrie pharmaceutique essaie de s'enrichir sur le dos des différences et nous incite à plus encore de normalité, comme c'est dit dans la bande dessinée. Est-ce que vous pensez également que nos sociétés peuvent créer de la folie ou pratiquement de toutes pièces, comme ça va être le cas également dans la bande dessinée ?
Alors, c'est une vaste question. En fait, ça m'a intéressé en tant que médecin, mais aussi en tant qu'auteur. C'est-à-dire que quand même, c'est l'ensemble qui m'a... l'ensemble du thème, c'est-à-dire que ce côté mensonger de notre société, manipulateur, et à l'intérieur de ces fonctionnements, comment fonctionne le problème de la santé, ce qu'a commencé à dire tout à l'heure Antonio, et cette manière que l'on a, mais ça dans la médecine occidentale, de tout temps, il y a eu toujours des mots MOTS qui ont été posés sur les mots MAUX. Hein. Et donc, là, l'opportunité était belle à une époque de capitalisme galopant, et il faut le dire quand même, de plus en plus dévoyé, il n'y avait pas aucune raison que la médecine et la santé échappent à ce fléau, quoi. Alors, j'ai vu notamment que Antonio était très bien documenté, parce que moi, j'ai découvert des choses, par exemple, qu'en 91, c'est là où ont commencé les décisions pour inventer des maladies. Après, dans mon expérience, d'abord, je tiens à dire quelque chose, c'est que je ne vais pas me mettre à critiquer l'ensemble des médecins. Moi, j'ai quand même connu, si vous voulez, l'ensemble. La médecine, heureusement, fonctionne bien. Et les médecins sont des gens de bonne volonté qui donnent beaucoup de leur énergie et de leur temps, et de façon tout à fait honnête et dévouée. Mais tout d'un coup, il y a un nuage comme ça qui est arrivé. Hein, on l'a vu arriver et ça correspond un peu à l'ensemble de ma carrière. C'est-à-dire qu'à partir des années 70-80, on a pu se rendre compte que les pouvoirs politiques quand même en avaient assez de ces médecins qui quand même avaient un pouvoir électoral, chacun dans son quartier, tout ça. Et c'était des gens qui avaient le sens de l'humain, mais aussi qui avaient, avec les défauts et les qualités, de la singularité, leur personnalité, leur fantaisie. Et tout ça, c'était pas conforme. Il fallait quand même un petit peu réguler déjà tout ça. Donc, on a vu, effectivement, des laboratoires avoir des politiques très incitatives pour les prescriptions. On a vu aussi, on a pu se demander aussi pourquoi la sélection des médecins se faisait sur des critères moins humanistes qu'avant. Mais plus scientifique, mais tout ça. Et on ne voulait pas faire de paranoïa, on se demandait quand même si on ne nous demandait pas, dans le corps médical, un peu plus de docilité. Et donc, on se posait la question, on se disait, tu interprètes trop, tu te poses des questions. Et puis après, les choses ont été plus précises. Alors après, chacun, en son âme et conscience, a pu se tenir en retrait et se sentir un petit peu indépendant. Enfin, se sentir indépendant dans sa pratique. Après, il est évident que les laboratoires et le monde pharmaceutique ont absolument tout envahi. Tout envahi, c'est-à-dire que j'entendais là récemment, il y a un mois, à Bordeaux et en France, on a révélé encore les problèmes de collusion qu'il y a entre les hôpitaux et puis les laboratoires. Et un médecin disait, un professeur, qui dans plein de bonne foi, disait, mais on ne peut pas faire sans eux. Et bien oui, bien sûr, puisque de toute façon, ils se sont rendus absolument omniprésents et indispensables. Alors ensuite, on en est venu cette incitation. Heureusement, beaucoup de mes confrères, et je m'en félicite moi aussi, ont refusé quand même de ces incitations-là et ont souhaité quand même continuer à exercer leur esprit critique. Et par exemple, par rapport au laboratoire dont on retrouve le logo dans Moi Fou, ce laboratoire qui a été très actif, on pouvait quand même leur poser quelques questions et être critique par rapport à leur présentation de certains produits, par rapport aussi au fait qu'ils ont longuement et difficilement négocié, par exemple, le prix des médicaments pour le sida en Afrique. C'était une chose, on s'était passé le mot, quelques médecins, pour dire, bon, voilà, je donne des exemples. Mais il y a un exemple sur lequel je veux revenir, parce que je ne peux pas non plus être trop long. Mais ce qui m'a intéressé, c'est parce que justement, c'était par rapport... Il y a des domaines comme la cardiologie, les maladies infectieuses, qui ont été quand même très, très ciblés. Mais là où ça a été le plus fort, c'est effectivement sur la psychomédecine. Enfin, voilà, la psychiatrie. Là, ils ont senti quand même qu'ils touchaient quelque chose de très, très intéressant. Et effectivement, dans différents domaines. Parce que la folie... Et qu'est-ce qu'on en fait de cette folie? Quel mot on met dessus? Et on s'est rendu compte, par exemple, sur une pathologie très, très répandue, qui est ce qu'on appelait autrefois, et on a le droit d'appeler encore la psychose maniaco-dépressive, tout d'un coup, on s'est rendu compte que de plus en plus de médecins parlaient de l'état bipolaire. Alors, bon, pourquoi ce mot nouveau, tout ça? Et on s'est rendu compte quand même, peu à peu, qu'il était relayé par des spécialistes, par des chefs de service, tout ça, parce qu'il y a un état pyramidal quand même de cette influence des laboratoires, et que certains produits étaient propulsés à la place d'un traitement classique et habituel, et que cela permettait d'élargir le champ de recrutement, si j'ose dire, de ces patients, de façon phénoménale, quoi. Et donc, et on voyait comme ça là, de plus en plus de médecins et de spécialistes dire « Ah, il est bipolaire ». Alors, bipolaire, c'est passé presque dans le... C'est-à-dire qu'un changement d'humeur, si on était contrarié, finalement, ce qui n'avait plus rien à voir avec la vraie psychose maniaco-dépressive, était qualifié de bipolaire et justifiable d'un traitement. Et c'est là, quand même, où beaucoup de médecins ont commencé à se poser des questions. Mais c'est ce genre de pratique que l'on a vu dans la vie, je dirais, réelle, pas dans la fiction, mais finalement, la fiction, l'envers du décor, ben, c'est justement Moi Fou qui nous permet de le voir, quoi, voilà. Et c'est intéressant, parce qu'on a fait partie quand même des premières fake news. Hein. Le vaccin pour l'hépatite B, quand on nous disait qu'il fallait qu'on vaccine les enfants dans les années 90-95, parce que ça se transmettait par la salive. Et ça n'a quand même jamais donné lieu à trop de poursuites ni trop de scandales, quoi. Mais depuis, ça s'est révélé une fausse information, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu en quoi j'étais sensible, notamment parce qu'en fait, c'est sur tout le contexte, si vous voulez, de cette société mensongère. C'est pour ça que c'est le troisième volume s'appelle Moi menteur. Ça coule de source, quoi. Voilà. Hein, voilà. Donc voilà en quoi ça m'a intéressé.
Alors, comme vous vous en doutez, c'est comme on vous l'a dit, c'est un polar plutôt noir, mais il y a quand même des moments un peu humoristiques. C'est lorsque les différents spécialistes du laboratoire proposent les nouvelles maladies qu'ils viennent d'inventer. Alors, Antonio Checco, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces maladies? Est-ce que certaines existent? Est-ce que, Antonio, tu les as inventées de toutes pièces?
Non, non. Toutes Toutes les maladies, tous les noms qui est. Je n'ai pas inventé aucun nom.
Ah non.
Non, simplement, ce sont des mots. Par exemple, je ne sais pas. Par exemple, je crois la rictiphobie. Rictiphobie, c'est la phobie pour les rides. C'est-à-dire, qu'un homme ou une femme s'obsède ou sente que les spectacles que lui offre le miroir se dégrade au fur et à mesure que le temps passe et que la vieillesse, le ride, etc. Sont présentes. Bon, font certains cas d'addiction à cette chirurgie esthétique. Cette préoccupation pour le vieillissement qui apparaît, par exemple, je ne sais pas c'est pourquoi il y a le conte de Blanche-Neige et la marâtre qui, je crois que le conte de populaire de Blanche-Neige, c'est aussi l'histoire d'une femme qui ne supporte pas vieillir. Hein, c'est-à-dire, on met la lumière sur Blanche-Neige, mais c'est la marâtre aussi qui détermine un peu le fonctionnement de tout ça. C'est-à-dire que c'est une angoisse, c'est une préoccupation qui nous a hanté depuis très longtemps. Hein. L'oubisson, le temps qui passe, le tempus fugit, etc. Alors maintenant, si vous appelez ça rictiphobie, si vous faites une description suffisamment dramatique de conséquences qui peuvent avoir comme évolution extrême de cette rictiphobie, eh bien, vous avez déjà un cas qui est tout prêt pour pour le traitement médical. Par exemple, vous avez connu, vous êtes sans doute presque tous deutérophobes. Mais je ne sais pas si vous le connaissez avec ce nom. C'est-à-dire, avant, c'était le syndrome post-vacances. C'est-à-dire que si vous savez, deutéros en grec, signifie le lendemain, le jour suivant. Hein. Alors, avoir peur du lundi, sentir éprouver une certaine angoisse parce que les vacances s'achèvent, il faut me réintégrer au travail, etc. Bon, ça a été ou ça peut paraître complètement naturel, normal. Bon, c'est passé d'un rythme et d'une disponibilité du temps, d'un rythme de vie et d'une disponibilité du temps libre à une autre occupée. Parfois, les milieux laboraux et un milieu stressant, etc. Vous avez eu ici des expériences qui ont mené certains employés au suicide, même dans ces ambiances de travail. Alors, si on leur donne ce nom qui existe déjà, deutérophobie, si on fait un descriptif de la maladie disant que ça peut donner des angoisses, des stress, etc., il s'agit de trouver certains symptômes. Réellement, le mode de travail de ces experts qui se chargent d'inventer de maladies mentales, c'est simplement, bon, par exemple, maintenant, nous sommes, il y a une grande source de troubles mentaux qui viennent de notre relation avec les nouvelles technologies. Par exemple, la nomophilie, par exemple, la dépendance du portable. Mais tout comportement, par exemple, celui qui est nostalgique, celui qui veut être toujours le premier à avoir une nouveauté technique, qui fait la queue pour avoir le premier, le dernier modèle de portable, etc. Si tu appelles ça néophilie, c'est-à-dire l'amour pour tout ce qui est neuf. Et si tu le décris d'une façon compulsive, effectivement, ça peut... Donc, il s'agit toujours... Les noms apparaissent au fur et à mesure, et il suffit de dramatiser un peu dans la description pour tomber déjà dans la pathologie et déjà entrer dans le monde du traitement et de la pilule. Alors, c'est là où je trouve le risque, donc, dans toutes ces déviations d'une hyper consommation des médicaments. Rendez-vous compte, c'est quelque chose que tu connais sans doute, François, très bien. L'industrie pharmaceutique est très différente au reste des industries qui existent, parce que c'est la seule industrie où le coût, le prix du produit ne garde pas une relation avec le coût de fabrication. Hein? C'est en réalité, d'après les recherches que j'ai faites, le pourcentage moyen des bénéfices de l'industrie pharmaceutique dépasse en 2 ou 3 points les bénéfices du reste des industries. Parce que la valeur du médicament dépend pas tellement de ce qui a coûté fabriquer ce médicament, mais du besoin qui peut avoir la société à un moment déterminé. Et c'est pourquoi, par exemple, tu parlais, pour le traitement du sida en Afrique, certains laboratoires ont augmenté le prix, etc. Le personnage que nous prenons comme modèle, comme directeur de cette corporation, c'est un personnage qui existe réellement et qui est, j'ai été attiré par lui parce qu'il apparaissait pendant une certaine période dans les enquêtes confessées aux États-Unis comme le personnage le plus haï de tous les États-Unis. C'est Martin Shkreli, un jeune PDG de l'industrie pharmaceutique qui a fait une très bonne opération en achetant un laboratoire, et la première décision a été d'augmenter en, je ne sais pas si c'est 500% ou 700%, un médicament qui est pour le traitement de l'hépatite. Alors, cela a supposé la mort même de beaucoup de malades, de beaucoup de patients. Donc, et il s'en vantait. Hein, et il se vantait de ce coup de maître qui lui avait fait gagner beaucoup d'argent. Cette attitude insolente lui a valu donc la haine d'une bonne partie de la société américaine.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.